L'enseignante suppose que Malik se trompe, mais elle constate aussi qu'aucun des deux, hein, ni Malik ni Samuel, explique qu'ils ne savent pas faire l'exercice. Et ça, elle constate aussi qu'il y a un frein important à la demande d'aide. Alors ce frein à la demande d'aide, il est notamment lié au contexte plurilingue, hein, et à la complexité que ce contexte apporte. On se demande finalement, dans la situation pédagogique de mise en contact plurilingue, qu'est-ce que cette mise en contact plurilingue a apporté? L'enseignante voulait voir si Malik arrivait à verbaliser. Quand l'enseignante explique Malik, je ne sais pas, je pense qu'il comprend beaucoup de choses, mais qu'il ne veut pas trop, qu'il ne veut pas parler pas trop. On voit bien cette situation d'incertitude. Alors c'est une situation régulière vis-à-vis des enfants désignés nouvellement arrivants allophones de la route pédagogique incertaine. Cette route migratoire que les enfants ont vécue se télescope dans la route et la routine, pour reprendre les termes d'Anne Barrère pédagogique, et cette incertitude se télescope dans la pratique enseignante. Et cette incertitude de la route pédagogique, elle déroute, c'est le cas de le dire. Un des modes de résolution de cette déroute, dans un souci de rendement scolaire, peut être d'attribuer parfois à un trouble externe ou à des interrogations externes le déficit ressenti de communication. Et ce déficit ressenti de communication, hein, qui peut parfois être attribué par certains enseignants à un mutisme réel, supposé, parfois un peu exagéré, hein, dans certains cas, parce qu'il y a de la timidité, de la gêne de la part des enfants en classe, il est relativement fréquent dans la situation de la primo-migration. La professeure, est relativement satisfaite parce qu'elle voit que Malik est, actif d'un point de vue de l'exercice de mathématiques. Alors là, évidemment, l'observateur se demande quelle est l'attitude habituelle de Malik en classe. L'enseignante connaît cet élève par ailleurs. Est-ce qu'il est relativement inactif le reste du temps? L'enseignante dit par exemple, c'est assez long, hein, depuis que je l'ai dans ma classe, pour le voir faire des choses. Donc elle se dit, le problème n'est pas que l'oral. Là, je vois que j'ai quand même un groupe russophone qui lui permet d'interagir au moins avec quelques personnes dans la classe. Et du coup, à se mettre en activité parce que des fois, il ne captait pas ce qu'il fallait forcément faire. Donc on voit bien, là, on suppose que, bah, y a quand même un premier pas d'entrée pédagogique pour Malik et l'enseignante est relativement satisfaite. Elle dit, Malik parle déjà en russe avec un autre enfant, ce qui est déjà pour moi bien, car il interagit avec un autre enfant. Donc là, on voit bien que la tentative de diagnostic, elle n'est pas uniquement scolaire, hein, elle cherche à voir si l'enseignant, bah, si l'élève, pardon, est capable d'établir une communication, s'il n'est pas mutique, hein, pour reprendre des termes qui sont souvent utilisés. Alors toutefois, ici, l'hypothèse d'une connivence sur fondement linguistique est aussi en même temps mise en doute par l'enseignante elle-même. Donc on voit bien le tâtonnement, hein, pédagogique. Elle constate qu'il ne parle qu'en russe, mais qu'il n'y a pas de discussion non scolaire entre Andrei et Malik en russe. Elle se dit, voilà, il parle que du domaine scolaire finalement. S'il y avait eu connivence, on aurait pu penser qu'il y aurait eu voilà, des bavardages hein, qui référaient à d'autres éléments que le strict domaine scolaire. En fait, là, on n'a pas d'indice pour inférer cette situation d'une connivence sociale qui permettrait une connivence scolaire ou en tout cas un partage scolaire. On observe ici les exigences relativement classiques de l'enseignante de voir si, au-delà de la question linguistique, Malik comprend ce qui lui est demandé, s'il comprend les consignes. Elle veut voir son niveau scolaire, finalement, pour essayer d'adapter, d'ajuster ses routes pédagogiques. Et on voit bien que la non-communication de Malik l'empêche de faire ces diagnostics-là. Donc, en fait, elle cherche à neutraliser la question linguistique en le faisant parler en russe pour mettre à l'écart, en fait, la variable de non-maîtrise, enfin, non-communication. Mais ça, elle ne le dit pas directement aux enfants. Et puis, surtout, pour faire ça, Samuel n'est pas tellement utile dans l'interaction. Alors, la réponse à l'interrogation de l'enseignante, c'est oui, Malik comprend bien la consigne et on voit bien qu'il arrive à réaliser assez partiellement, voire relativement bien la tâche qui est demandée. Mais pour elle, bah, cette certitude n'est pas tout à fait évidente, hein, on a l'impression qu'elle doute, on a l'impression qu'elle se demande si finalement Malik a vraiment réussi à rentrer dans l'activité. Alors là, on voit bien que ce tâtonnement sur on va dire les capacités scolaires de Malik, il peut rapidement en fait être source d'enjeux, hein, puisque un enfant qui est mutique, qui n'arrive pas à percevoir, à comprendre, y compris dans sa langue première, une consigne, va davantage faire l'objet d'un suivi, hein, notamment périéducatif, qu'un enfant qui est scolairement performant, même s'il ne maîtrise pas la langue française. Donc, dans ce contexte-là, hein, le diagnostic scolaire par rapport au diagnostic linguistique, il est risqué parce qu'en fait, il se fait à partir d'interactions complexes entre enfants dont on ne maîtrise pas les ressorts sociaux et interenfantins. On voit ici que la tension pédagogique de l'enseignante, et ça c'est un point qui est quand même assez important, elle est centrée presque exclusivement sur Malik. Hein, dans les deux vidéos de feedback de l'enseignante, il y a surtout une préoccupation sur Malik. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, hein, il peut y avoir un effet voilà, de construction de l'outil, hein, notamment, mais finalement, on s'interroge sur cette centration de l'intérêt pédagogique sur Malik, alors que finalement, scolairement, le plus en difficulté semble davantage Samuel. Et donc là, on voit qu'il y a une espèce de confusion en fait entre la situation de décrochage linguistique ou d'accrochage linguistique et de décrochage scolaire ou d'accrochage scolaire. Et là, cette mise en situation des deux composantes, elle rend le verdict scolaire de l'enseignante non seulement sévère, mais parce que très complexe et donc flou. La professeure explique qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait pas d'échange dans les procédures et que Samuel était beaucoup à les regarder parler. Alors sa vision et son analyse de la situation est d'une certaine manière assez juste. Hein, elle voulait ainsi réintégrer Samuel dans le groupe parce que, dit-elle, il a besoin qu'on lui explique des choses. Samuel, c'est le seul non-russophone du groupe et de fait, il y a plein de moments de la situation où il ne comprend pas grand-chose à la situation. Donc l'objectif de réintégration est moyennement atteint. On voit ici, en fait, émerger finalement la difficulté, hein, le caractère inconciliable d'associer deux objectifs pédagogiques différents dans la situation filmée. Premier objectif pédagogique, créer un environnement plurilingue pour aider un élève qui, manifestement en classe, ne souhaite pas parler, à le faire grâce à l'usage de la langue d'origine. C'est un objectif qui est souvent mis en évidence par les enseignants, qui est largement encouragé par les linguistes. Mais ici, c'est un objectif qui est peu atteint et qui, par ailleurs, on l'a vu, peut produire d'autres effets. En même temps, autre objectif, hein, permettre par ce biais d'accrocher un élève, cette fois-ci non russophone, qui est francophone, mais qui est en difficulté scolaire. Alors là, on assiste au caractère un peu incongru de l'extérieur, hein, d'une sorte d'étonnement face à un pari d'une pédagogie pluriculturelle, interculturelle, hein, qui serait magique. Finalement, là, l'enseignant, indirectement, va produire des étalons d'équivalence. Ces étalons d'équivalence vont permettre de construire son jugement. Et le moins bon scolairement, ici Samuel, on suppose en tout cas, le moins bon scolairement, ici Samuel, est doté par l'enseignant d'une certaine proximité avec le moins francophone, c'est-à-dire Malik. On suppose que donc le moins francophone et le moins scolairement performant vont pouvoir être coopératifs, notamment qu'il va se construire une solidarité ou un lien entre Malik et Samuel. Alors, on s'interroge sur cette association. Est-ce qu'il existe une croyance, une foi dans des solidarités entre les plus marginaux scolairement? Sinon, pourquoi mettre un élève en difficulté scolaire avec des élèves qui, a priori, ne le sont pas, mais qui ne sont pas locuteurs de sa langue première à cet élève en difficulté?